Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Oui, votre Esprit Seigneur se fera une création nouvelle. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation. Pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, j'ai pris comme comme sujet de cette conférence, il y aura plusieurs conférences sur le sujet. Un des textes les plus importants de Saint Pédis, qui est très peu connu, le texte est un peu compliqué, je vais essayer de vous le simplifier, c'est le serment antimoderniste. Bon. Le serment antimoderniste, il date de 1910, donc je rappelle que Saint Pédis a condamné le modernisme, toutes les idées actuelles ont déjà été condamnées longtemps auparavant par l'Église. Il a condamné le modernisme en 1907, d'abord en juillet 1907 par l'encyclique Lamentabili, puis en septembre 1907 par l'encyclique Pascendi. Et il a enfoncé le clou en 1910, trois ans plus tard donc. Le 1er septembre 1910, il va imposer à tous les prêtres, et bien sûr tous les évêques, un serment antimoderniste pour protéger l'Église du modernisme. Ce serment devait être prononcé par tous les diacres juste avant leur ordination. La veille de leur ordination, le prêtre, le futur prêtre, qui va être ordonné le lendemain, va prononcer ce serment publiquement, ou au moins en privé devant les professeurs de son séminaire, devant le directeur de son séminaire, parfois devant son évêque quand il est là. Il va prononcer ce serment. Moi, je l'ai fait la veille de mon ordination. Bon. Avant, ce serment était aussi fait par tous les professeurs des universités catholiques, au début d'année scolaire. Début d'année universitaire, tous les professeurs se réunissaient à la chapelle et devaient prêter le serment antimoderniste pour essayer de protéger l'Église contre le modernisme. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Je me demande si on ne le faisait pas aussi avant le diaconat, le sous-diaconat. Ça, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Alors, c'est quelque chose de très important à comprendre. Vous savez que malheureusement, Saint Pédis était tout à fait réaliste. Il a bien compris que malgré tous ses efforts, toutes ses condamnations, le modernisme n'était pas mort. Je vous ai déjà expliqué que lorsqu'il est mort, il est mort en août 14, il pleurait en mourant. Et son grand ami, le cardinal Méry Delval, qui était le premier ministre de l'Église, lui a dit, mais très Saint-Père, vous pleurez parce que vous avez peur de la mort? Il a dit non. Je n'ai pas peur de la mort, je pleure parce que d'abord je vois un très gros conflit mondial arriver. On était juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Il disait, je pleure aussi parce que je sais que le modernisme n'est pas mort. Les modernistes se sont enterrés, attendent des jours meilleurs, comme des champignons après la pluie. On est en 1910, il y a plus d'un siècle. Donc il ne faut pas tout penser une seule seconde que ces idées modernistes sont des idées modernes. Le terme est un peu ambigu. C'est des vieilles idées, c'est vieux comme le monde. Depuis le début, les ennemis de l'Église essayent d'introduire l'esprit du monde dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'esprit de l'Église catholique. C'est ça qu'on appelle le modernisme. Le modernisme, c'est l'esprit du monde, tout simplement. C'est l'esprit du monde qui rentre dans l'Église catholique. Bon, l'esprit du monde est incompatible. L'Église catholique est incompatible avec l'esprit du monde. L'esprit du monde est résumé par trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Eh bien, ces trois mots, ces trois poisons d'égalité, de liberté, de fraternité vont rentrer dans l'Église et vont essayer de détruire l'Église de l'intérieur. Bon. Sous d'autres mots, ils vont changer un peu les mots. Au lieu de liberté, ça va devenir la liberté de conscience. Au lieu d'égalité, ça va devenir la collégialité. Au lieu de fraternité, ça va devenir l'écuménisme. Mais c'est exactement les mêmes choses. Et donc Saint-Pélis a essayé de bloquer tout ça, malheureusement il n'a pas pu. Il n'a pas réussi, parce que le ver était déjà tellement dans le fruit qu'il n'a pas pu empêcher les modernistes de se cacher. Il s'en est vite rendu compte, et vous savez que le pape Saint-Pélis a dû aller beaucoup plus loin. Il s'est rendu compte très vite qu'il n'arriverait pas à déraciner tout cela, parce que dans les séminaires, il y avait déjà des professeurs qui étaient modernistes et qui se cachaient. Et il a dû organiser une société secrète qui s'appelait la Sapinière, société Saint-Pie V. La Sapinière, pour faire des investigations, des enquêtes à l'intérieur même des séminaires, pour essayer d'attraper les professeurs de séminaires qui étaient infestés d'idées modernes, pour être sûr qu'ils soient mis dehors. Bon. Malheureusement, encore une fois, ces professeurs se sont cachés. Ils savaient qu'il fallait attendre. Ils ont attendu. Ils ont attendu, attendu, attendu. Et en 1958, avec la mort du pape Pie XII, ils ont vite compris, maintenant c'est le temps. Et dans toutes ces idées qui couvaient depuis très longtemps, vont exploser, si vous voulez, à la mort du pape Pie XII en 1958. Mais encore une fois, il ne faut pas penser une seule seconde que ces idées sont apparues d'un seul coup en 1958. Elles existaient déjà depuis très longtemps. Et quand on analyse les idées du modernisme, qui sont résumées ici par le pape Saint-Pie X, donc quand on analyse un petit peu ces idées, on se rend compte que ces idées sont les idées du protestantisme, 1517, les idées qui ont été relayées par la franc-maçonnerie, 1717, qu'on va retrouver avec la Révolution française 1789, puis retrouver encore avec, qu'on trouvera plus tard, avec toute la révolution qui va exploser, si vous voulez. Alors le pape a condamné tout ça dès 1907. Puis après en 1910. Donc on va reprendre un petit peu ce texte qui est un peu complexe, donc je vais vous l'expliquer lentement pour être sûr que vous le compreniez. Bon. Le modernisme, c'est quoi? Le modernisme, si vous voulez, c'est en gros, pour simplifier, c'est la négation du péché originel. L'homme est bon. Bon, vous savez, parce que vous êtes catholique, que l'homme n'est pas bon, justement. On est tous corrompus par le péché originel. Tous, nous sommes nés avec le péché originel. Bon. Vous allez me dire, mais c'est des choses que j'ai déjà expliquées, donc je ne reviens pas là-dessus, parce que j'ai déjà expliqué tout ça en long, en large et en travers, mais il faut bien revenir quand même sur les points pour être sûr qu'ils sont bien acquis. Les gens modernes vont vous dire, bon, le péché originel, il est éliminé par le baptême, donc il n'y a plus de problème. Rappelez-vous que le baptême n'élimine pas les conséquences du péché originel et que chaque partie de notre âme, chaque puissance de notre âme, est atteinte par une blessure du péché originel. Le baptême enlève le péché originel, mais pas les blessures, il faut se mettre ça dans la tête. Donc il reste l'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence. Donc, l'ignorance est contre quoi ? Qui est la puissance de notre âme qui est affectée par l'ignorance. C'est l'intelligence. Bon. Ensuite, la malice de la volonté, la faiblesse dans l'irascible et la concupiscence dans l'inconcupiscible. Et donc Saint-Pélis, si vous voulez, va essayer de résumer tout ça par ce motu, ce qu'on appelle un motu proprio. Le nom exact en latin, Sacrorum Antistitum, promulgué le 1er septembre 1910 par le pape Saint-Pie X. Hein? Alors, si vous voulez, pour lutter contre ces idées de liberté, d'égalité, de fraternité, il va falloir certaines vertus. Bon, comment travaille le modernisme? Le modernisme travaille toujours avec les mêmes erreurs. J'ai déjà expliqué ça, je répète, parce qu'on oublie les choses. Saint-Pélis, quand il condamne le modernisme, il donne trois sources du modernisme. L'orgueil, l'ignorance, l'attraction vers les choses mondaines, ou la curiosité. Non. Donc, ceci est résumé par les idées de liberté, d'égalité, de fraternité. Liberté, droit de faire ce que je veux. Égalité, suppression de toute autorité au-dessus de moi, on est tous égaux, et fraternité, plus de différence entre nous. Bon. Donc, au lieu de la liberté, quelle est la vertu spéciale qui va s'opposer à la liberté moderne? La vertu d'obéissance. Donc, au lieu de parler aux gens de liberté, on va leur parler d'obéissance. Bon. Vous parlez aux gens modernes de liberté, ils sont tout contents. Vous leur parlez d'obéissance et vous font une tête de 6 pieds de long. Bon. Au lieu de justice, au lieu, pardon, d'égalité, on va leur parler de justice. Quand vous dites aux gens modernes qu'ils sont tous égaux, tout le monde est d'accord. Quand vous leur parlez de justice pour rendre à chacun ce qui lui est dû, plus personne n'est là, plus personne n'est là pour nous écouter, parce que les gens ne sont plus d'accord. Donc, contre la liberté et l'obéissance, contre l'égalité et la justice, et contre la fraternité, la vertu de charité. Vous voyez ? Donc, on retrouve toujours les mêmes choses. Comment se fait-il que le démon a pu prendre complètement possession littéralement des intelligences ? C'est parce que précisément ces vertus ont disparu. C'est pour ça que j'insiste tant dans les familles sur la vertu d'obéissance. Je vous l'ai souvent expliqué, un enfant qui n'a jamais appris à obéir, c'est la catastrophe du monde moderne, un enfant qui n'a jamais appris à obéir deviendra une nouille incapable de commander. C'est pour ça que les hommes modernes sont devenus des nouilles. Ils sont devenus des nouilles, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir. Et donc il faut revenir sur ces vertus fondamentales, l'obéissance, la justice, la charité. Et tout ça, c'est comme des plantes qui vont pousser sur un terreau. D'accord ? Et quel est le terreau de ces trois vertus ? L'humilité. L'humilité. Et le monde moderne est un monde, si vous voulez, qui travaille avec l'orgueil. C'est pour ça qu'on a tellement de mal aujourd'hui. Bon. Et tout le monde moderne pousse constamment les gens à l'orgueil. L'orgueil. Bon. Alors, on va essayer de développer un petit peu ça, si vous voulez. La grande difficulté, si vous voulez, c'est que ces idées modernes, qui ne sont pas encore une fois des idées modernes, sont des idées mondaines. C'est pour ça que au lieu de modernisme qui donne une idée, une impression que ce sont des choses modernes, il faudrait presque utiliser le mot de mondanité. En fait, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est quoi ? C'est l'esprit de celui qui a crié le premier « Je ne servirai pas ». D'ailleurs, le mot « Je ne servirai pas », la phrase « Je ne servirai pas », qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'orgueil. Et on trouve toujours les mêmes choses. Alors voilà le serment. Donc ce serment se fait de façon très solennelle. Devant le Saint-Sacrement ouvert, le prêtre va prononcer ce serment devant, en général, le Saint-Sacrement qui est ouvert, devant le tabernacle ouvert, et en présence de tout le corps professoral du séminaire. C'est comme ça qu'on l'a fait au séminaire des cours. Bon. Alors voilà ce que dit Saint-Pédis, voilà ce que dit la personne qui va devenir prêtre. Donc, il fait ce serment solennellement, la base de son ordination sacerdotale. Inutile de vous dire que ce serment n'existe plus dans l'Église moderne. Hein, ça a été supprimé il y a longtemps. Voilà ce que dit le diacre qui va être ordonné. J'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités qui ont été définies, affirmées et déclarées par le magistère infaillible de l'Église, principalement les chapitres de doctrine qui sont directement opposés aux erreurs de ce temps. Bon. Donc l'Église est fondée sur le dogme. D'accord ? Le dogme, c'est l'enseignement de l'Église. Le dogme de l'Église est infaillible. Infaillible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne change pas. Ça veut dire, et ça aussi c'est très important à comprendre, donc un moderniste est quelqu'un qui pense que le dogme change, doit s'adapter aux circonstances. Donc à la base du modernisme, on revient à des choses que j'ai déjà expliquées, à la base du modernisme, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'idée de subjectivisme. La vérité n'existe pas, chacun fait sa propre vérité. À la base de l'anti-modernisme, du catholicisme, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'objectivisme. La vérité existe par elle-même. Bon. Si chacun peut faire sa propre vérité, la vérité n'existe pas, évidemment, puisque chacun a la sienne. D'accord ? Bon. J'ai déjà expliqué tout ça. Qui est le grand saint, qui est le patron de l'objectivisme, c'est saint Thomas d'Aquin. Bon. Quel est le philosophe qui est à la base du subjectivisme, Kant. Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, c'est fin 18e siècle. Il est mort autour des années 1802, quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, si vous voulez, le modernisme, pour travailler pour un moderniste, il est absolument impératif que le cerveau soit déconnecté du réel. Bon. C'est pour cela que on appelle la philosophie subjectiviste la philosophie idéaliste. Idéaliste, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est coupé du réel. Au contraire, la philosophie de saint Thomas d'Aquin, comment on l'appelle ? La philosophie réaliste. Les deux pieds sur la terre. D'accord ? Le moderniste, complètement coupé du réel. Bon. On le voit très bien aujourd'hui. comment ils déconnectent complètement, surtout les enfants, de la réalité des choses. Donc on fait croire aux enfants, aux adolescents, qui peuvent choisir, par exemple, c'est la grande mode actuellement, qui peuvent déterminer s'ils vont devenir un homme ou une femme. Bon, il n'y a pas besoin de connaître tout saint Thomas d'Aquin pour savoir répondre à cette objection. Le réel nous dit quoi ? Qu'est-ce que nous dit le réel ? Le réel nous dit que toutes les femmes ont dans chacune des milliards de cellules qui composent leur corps, dans le système chromosomique, dans leur caryotype, elles ont deux chromosomes X. Les hommes, dans chacune des milliards de cellules qui font leur corps, ils ont un chromosome X, un chromosome Y. Donc vous avez un chromosome X et un chromosome Y dans chacune de vos cellules, dans chaque noyau de chaque cellule, vous êtes un homme, que ça vous plaise ou non. Vous avez des chromosomes X, vous êtes une femme, que ça vous plaise ou non. Ça, on ne peut pas changer tout ça. Donc, qu'est-ce que fait la révolution ? La révolution, si vous voulez, va couper les gens du réel pour les empêcher de se protéger avec le réel. D'accord ? Alors, encore une fois, c'est ça qu'il faut comprendre. À la base de tout, vous avez l'orgueil. C'est Lucifer. Vous voyez pas qui était Lucifer ? Lux ferrer en latin, ça veut dire quoi ? Le porteur de la lumière. Donc Lucifer, c'était le plus bel ange du ciel. Il s'est révolté. Comment s'est-il révolté ? En introduisant l'orgueil dans son système intellectuel. D'accord ? Alors, Saint-Pédis va donc faire une liste de tous les points, pour résumer un peu le modernisme, il va faire une liste de toute une série d'erreurs philosophiques. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, parce que le modernisme, ce sont des erreurs dans l'intelligence. Le plus grave, c'est quand l'erreur passe dans l'intelligence. Vous savez ce que le proverbe ? Le poisson pourrit toujours par la tête. Lorsque l'intelligence est contaminée, on ne peut plus rien faire. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est contaminé dans son intelligence va devenir incapable de penser droit. Rappelez-vous le conseil que nous donnait Mgr Lefebvre au séminaire, j'en ai souvent déjà parlé. Il nous avait dit au séminaire, une fois que vous serez prête, votre première mission sera de réapprendre à vos fidèles à penser droit. Les gens ne savent plus penser droit. Et comme ils ne savent plus penser droit, ils se coupent complètement de la réalité des choses. Donc, le moderniste, si vous voulez, le moderniste c'est donc quelqu'un qui suit la philosophie du subjectivisme, qui fait sa propre vérité. Pourquoi ? Parce que si chacun a sa propre vérité, la conclusion c'est que la vérité n'existe pas. Alors voyons un petit peu ces différents paragraphes, si vous voulez, de ce serment antimoderniste. Alors je vais vous expliquer simplement le premier paragraphe aujourd'hui. Voilà ce que dit Saint Pédis. Je professe que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être certainement connu, par conséquent aussi démontré à la lumière naturelle de la raison, par ce qui a été fait, c'est-à-dire par les œuvres visibles de la création comme la cause par les effets. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de la foi catholique pour croire en Dieu. Toute personne qui a une intelligence est obligée d'arriver à l'existence de Dieu. On n'a donc pas besoin de la foi catholique pour croire en l'existence de Dieu, pour croire en l'existence d'une âme, pour croire en un Dieu qui récompense les bons et qui punit les méchants. Maintenant, si on dépasse ça, là, on n'a pas besoin de la foi. Il n'y a pas besoin de la foi pour croire en l'existence de Dieu. Par contre, pour croire en l'existence de la Sainte Trinité, vous avez besoin de la foi. Pour croire en l'existence de l'incarnation, il y a besoin de la foi. Pour croire en l'existence de la rédemption, il y a besoin de la foi. Parce que là, on dépasse le niveau naturel. Mais la première chose que dit Saint-Pédis, donc il part des bases, un homme, à partir du moment où il a une intelligence, peut prouver l'existence de Dieu. Pourquoi ? Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, même si vous avez sans doute déjà un peu oublié. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué, comment travaille l'intelligence ?
L'abstraction.
Non. Elle travaille par abstraction, mais comment on appelle les rouages avec lesquels l'intelligence fonctionne ? J'ai expliqué au moins 5 ou 6 fois. Les premiers principes.
Un principe de causalité.
Ah, voilà, un principe de... Ah oui, c'est toujours pareil. Ah oui, on oublie tout. Oui. C'est ça les premiers principes. Les premiers principes, c'est les rouages avec lesquels l'intelligence fonctionne. Un païen, il a une intelligence ? Ben oui. Un communiste, il a une intelligence ? Non. Un protestant, il a une intelligence ? On a des intelligences. On a tous une intelligence plus ou moins développée. Donc chacun a un système intellectuel. C'est la définition d'un homme. D'un homme, c'est quoi ? Un homme, c'est l'association d'un corps et d'une âme. L'âme a des moyens de fonctionnement. Et l'âme va avoir ce qu'on appelle les puissances de l'âme, l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible. L'intelligence pour atteindre le vrai, pour trouver le vrai, connaître le vrai, la volonté pour l'atteindre, l'irascible pour lutter contre les obstacles qui se mêlent immédiatement à la recherche du vrai, et le concupiscible pour désirer les choses avec raison, avec prudence. Bon. Alors, l'intelligence pour pouvoir fonctionner, va avoir besoin des premiers principes, surtout du principe de causalité. Simplement avec le principe de causalité, on peut déjà prouver l'existence de Dieu. Parce que c'est le principe de causalité, je ne vais pas réexpliquer, j'ai déjà donné des cours là-dessus. Si je vois de la fumée, ça veut dire quoi ? Il y a un feu en dessous. Même si je ne vois pas le feu. Je vois la fumée qui s'échappe au-dessus des arbres, c'est qu'il y a un feu en dessous, je ne vois pas le feu, mais il ne peut pas y avoir de fumée sans feu. D'accord ? Les principes de causalité, le principe de causalité, c'est un principe intellectuel qui n'a rien à voir avec la foi. C'est pas la foi là qui est en jeu, c'est l'intelligence. Tous les hommes n'ont pas la foi, mais tous les hommes ont l'intelligence. Donc tous les hommes sont obligés d'utiliser le principe de causalité. D'accord ? Et donc ce principe de causalité, c'est quoi ? Il n'y a pas d'effet sans cause. On essaie de nous faire croire aujourd'hui que les choses se font toutes seules. Bon. On essaie de nous faire croire que la vie est arrivée toute seule sur la Terre. On essaie de nous faire croire que la complexité d'une cellule, tout ça s'est fait tout seul par hasard au cours de milliards et de milliards d'années. On prend vraiment les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, comme on dit vulgairement. On prend les gens pour des imbéciles. Il n'est pas possible que ces choses se fassent toutes seules. Pourquoi ? Parce qu'un effet n'arrive pas sans être causé. Et on pousse les gens à croire maintenant, à considérer que les effets arrivent sans être causés. On va vous dire, mais il y a des chances, une chance sur plusieurs milliards, que la vie se soit faite toute seule. Mais non, c'est pas possible. Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné, qui n'est pas de moi, vous avez encore oublié, je suis sûr. L'exemple de Georges Salé. Georges Salé, un grand mathématicien, qui donnait un exemple qui est très bon. Il disait, vous prenez un jumbo, un gros avion en quatre rédacteurs, vous décomposez l'avion en toutes ses pièces, jusqu'au plus petit des boulons, vous mettez tout ça dans un grand sac, donc il y a toutes les pièces détachées, vous secouez tout ça, vous montez à 10 000 mètres et vous ouvrez le sac. Donc toutes les pièces tombent. Quelle est la chance, la proportion de chance, que par le plus grand des hasards, tout seul, comme par hasard en tombant 10 000 mètres, les pièces se remettent ensemble et qu'arrivent en bas, sous l'endroit où vous avez lâché le sac, un jumbo, un énorme avion prêt au décollage. Alors les modernes vous disent, ah mais c'est une chance sur 10 milliards de milliards de milliards de milliards. Mais c'est prendre les gens pour des imbéciles. Il n'y a pas une chance sur 10 milliards de milliards de milliards. La chance est nulle, zéro. Il n'y a aucune chance. C'est pareil avec la vie. Est-ce qu'il est possible, par le plus grand des hasards, que des molécules se fassent toutes seules ? Quand vous voyez déjà la complexité d'une molécule, on est au niveau atomique. Vous voyez déjà la complexité d'un simple atome, même des atomes tout simples, comme un atome d'oxygène, un atome d'hydrogène. Imaginez un électron qui tourne à 300 000 km à la seconde. Bon, ça va vite un électron. Bon, toutes ces choses-là ne se font pas toutes seules. Il a bien fallu que ça soit créé par quelqu'un. Donc, première chose, vous voyez, on voit très bien comment s'impédisse par des bases. Avant la foi, il faut que la foi puisse travailler sur quelque chose. La foi n'arrive pas comme ça. Bon, un exemple qu'on prend toujours, c'est pour aider les gens à comprendre. C'est pour qu'un hélicoptère puisse atterrir, il faut un minimum de surface sur laquelle il puisse atterrir. Pour que la foi puisse travailler dans une âme, il faut une intelligence, parce que la foi travaille avec l'intelligence. S'il n'y a pas d'intelligence dans l'âme, comment voulez-vous que la foi travaille ? La foi n'arrive pas toute seule comme ça, elle ne se promène pas toute seule. Elle travaille sur l'intelligence. Donc, là, c'est pour ça qu'on connaissait le proverbe, qui est une grande vérité philosophique, c'est saint Thomas d'Aquin, la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. Donc il faut d'abord la nature pour que la grâce puisse travailler. Donc la grâce va travailler sur une nature préexistante. S'il n'y a pas de nature qui existe, qui préexiste, comment voulez-vous que la foi travaille ? Donc, il est possible de prouver, c'est la base de saint Thomas, de saint Pilice, dans son texte serment antimoderniste, que il n'est pas possible, au contraire, qu'il est parfaitement possible pour quelqu'un qui n'a pas la foi de prouver l'existence de Dieu. Bon, par exemple, tout simplement en voyant l'ordre du monde. Bon, celui, le premier qui a pensé à tout ça, c'était un païen qui vivait 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, Aristote. On appelle les preuves de l'existence de Dieu, qui va être reprise par saint Thomas au XIIIe siècle. Bon. On voit la succession des jours et des nuits, succession des saisons, de telle manière qu'il y a des païens qui étaient parfaitement capables, il y a des centaines et des centaines d'années, de déterminer à l'avance une date, par exemple, d'une éclipse de lune, une éclipse de soleil, parfois des siècles et des siècles à l'avance. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène mathématique. Donc, il y a un ordre entre les saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Il y a un ordre du jour et de la nuit. Et il n'y a pas besoin d'être très malin pour savoir qu'un ordre comme ça ne peut pas exister sans qu'il y ait quelqu'un qui préside à cet ordre. Donc, il faut une intelligence pour diriger tout ça. Bon, c'est comme un autre exemple très classique qu'on prend pour essayer d'expliquer tout ça, mais aujourd'hui il faut réexpliquer ces choses-là parce que les gens sont devenus bêtes comme leurs pieds, ils ne veulent plus réfléchir. C'est l'exemple de la boule de billard sur une table de billard. Vous voyez une boule de billard qui passe sur votre nez comme ça. Comment s'est déplacée cette boule de billard ? C'est pas déplacé tout seul, il a fallu qu'une queue de billard tape sur la boule qui va passer sur votre nez, sur la table de billard. Mais la queue de billard qui est actionnée, qui va frapper la boule, elle n'a pas frappé toute seule. Il a fallu une intelligence, un homme qui, derrière la queue de billard, pousse avec la queue de billard la boule qui va se déplacer, qui va taper une autre boule, qui va taper une autre boule. D'accord ? Bon, ce qu'on appelle la preuve par le mouvement. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Les choses sont provoquées. Donc il n'y a pas d'effet sans cause. Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que tout ça peut arriver tout seul. Que tout ça peut arriver par le plus grand des miracles. C'est absolument impossible. Il faut bien arriver à se remettre ça dans la cervelle. Et ça, la difficulté, pourquoi les gens modernes perdent la foi tellement facilement ? C'est parce qu'ils n'ont plus ces bases naturelles. La grâce détruit pas la nature, mais si la nature n'est pas là, comment voulez-vous que la grâce puisse travailler ? Donc, il faut d'abord une nature. N'oubliez pas que tous les hommes ont une nature humaine. Qu'est-ce que ça veut dire une nature humaine ? Nature humaine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un corps et une âme. D'accord ? Et l'âme contrôle le corps. C'est qu'on dit que l'âme est la forme du corps. L'âme a des puissances. Des moyens de travailler. Je répète, l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible. Bon. Donc, est-ce qu'un païen a une âme ? Oui. Donc, un païen a une intelligence, une volonté, un irascible et un concupiscible. Est-ce qu'on peut, avec notre intelligence, découvrir qu'il y a un maître de toute cette horde qui existe dans le monde ? Ben, évidemment. Et même un païen comme Voltaire avait reconnu que le monde était une horloge parfaitement bien réglée, qu'il ne pouvait pas concevoir une horloge sans avoir un horloger qui a fait l'horloge. Rappelez-vous cet exemple que je vous donne tout le temps. Quand j'ai devant moi des gens qui refusent d'accepter ces choses-là, ils me disent « Non, tout se fait tout seul, tout se fait tout seul, tout se fait tout seul. » Je prends toujours l'exemple de la montre. Rappelez-vous, voilà cette montre, là. Mais figurez-vous que ce matin, elle n'était pas sur la table. La montre s'est formée toute seule pendant la nuit. Il paraît qu'il y a des petits atomes qui se promènent dans la pièce, dans la salle à manger ici, tout ça. Par le plus grand des miracles, ça s'est formé, ça s'est aggloméré, hop, ça fait une montre, tout seul. En plus, seul alors. Les gens, même des païens vont dire, c'est pas possible d'avoir des bêtises. Attendez, qu'est-ce qui est plus compliqué ? Une montre ? Ou un brin d'ADN, un chromosome ? Un chromosome, c'est 1 million de fois plus compliqué qu'une montre. Alors, vous prétendez que les chromosomes ont pu se faire tout seuls, et vous dites qu'une montre ne peut pas se faire tout seul. Oui, les gens sont complètement illogiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut utiliser son intelligence pour comprendre pourquoi les gens refusent ce que je viens de vous expliquer. Pourquoi les gens modernes refusent catégoriquement de reconnaître qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Parce que si on reconnaît qu'un effet ne peut pas arriver sans une cause, on est obligé de remonter à la cause. Et les causes, ça remonte comme ça, on remonte à la première cause. La première cause, c'est qui ? Ben, c'est Dieu. Même un païen comme Aristote, avait donc prouvé l'existence de Dieu, la première cause, la première intelligence. Il appelait ça le premier moteur. Un système d'engrenage. Les engrenages, ils tournent les uns dans les autres. Et il faut qu'au début, il y ait un moteur qui ait donné le mouvement au premier engrenage. Et donc, première chose, vous voyez, c'est très intéressant de voir que dans un serment antimoniste, Saint Pidis, commence avec des choses naturelles. Donc, je reconnais que le principe est fin de toute chose, peut-être, le principe est fin de toute chose, c'est qui? C'est Dieu. Ce principe est fin de toute chose, peut-être certainement connu, par conséquent, démontré la lumière naturelle de la raison. Alors ça, c'est aussi, c'est important de le comprendre aujourd'hui, c'est aussi contre une hérésie. Il y a des hérétiques qui prétendent que pour prouver l'existence de Dieu, il faut la foi. Que sans la foi, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Comment appelle-t-on ces hérétiques ? Les fidéistes. Le fidéisme, c'est ça. Une hérésie philosophique qui consiste à dire que la foi est nécessaire pour prouver l'existence de Dieu. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de la foi pour prouver l'existence de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Vous n'avez pas besoin de la foi pour prouver l'existence d'une âme. Par contre, vous avez besoin de la foi pour accepter des choses plus complexes, comme la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption. Je vous ai expliqué tout ça, donc je n'y reviens pas. Donc là, il faut que la foi intervienne. Hein? Mais sans la foi, on peut déjà arriver à ça. Alors, il y a déjà des hérétiques, des fausses philosophies autour de Malebranche, qui ont enseigné de façon fausse que la foi est nécessaire pour prouver l'existence de Dieu. Alors là, attention, il faut faire attention, parce qu'il y a des grosses bêtises qui ont été dites dans les deux sens. Donc, des gens qui prétendent que la foi est nécessaire pour prouver l'existence de Dieu, c'est qui est faux, je viens de vous l'expliquer. La foi est nécessaire pour prouver l'existence de la Sainte Trinité. Encore, est-ce qu'on peut prouver l'existence de la foi de la Sainte Trinité? On ne peut pas la prouver en tant que telle. Il faut l'accepter parce que ça vient de Dieu. Bon. Mais là, il faut faire très très attention, c'est qu'il y a actuellement aussi des gens qui mettent le fidéisme à toutes les sauces. Bon, j'en ai déjà parlé, là je tiens absolument à rendre ces lettres de noblesse à un très très grand historien qui s'appelle Monseigneur Gaume. Parce que vous savez que malheureusement, il y a un prêtre dans la tradition du côté de Bordeaux qui prétend que Monseigneur Gaume était un fidéiste. Ce qui est totalement faux. C'est de la calomnie pure et simple. Monseigneur Gaume était un ami personnel du pape Pie IX. Et croyez-moi, Pie IX, ce n'était pas un libéral. D'accord ? Et donc on n'a pas le droit de dire que le Monseigneur Gaume était un fidéiste. C'est totalement faux. Par contre, ce qu'on doit enseigner, c'est que la foi n'est pas nécessaire pour prouver l'existence de Dieu. Donc toute personne qui a une intelligence doit arriver à l'existence de Dieu. Donc quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, je ne peux pas concevoir l'existence de Dieu parce que je n'ai pas la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas d'intelligence. Est-ce qu'un singe peut arriver à prouver l'existence de Dieu? Non, pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'intelligence. C'est ça qu'il faut faire attention même dans les mots qu'on utilise. Les mondes modernes parlent de l'intelligence à toutes les sauces. Ils vont dire qu'un dauphin est intelligent, qu'un singe est intelligent. C'est faux. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est un pouvoir de notre âme de découvrir le vrai, de savoir que le vrai existe. Est-ce qu'un singe a une âme?
Non.
Oui et non. Ça dépend de ce qu'on n'entend pas.
Âme sensitive.
Voilà. Rappelez-vous qu'il y a 3 degrés. Hein. Est-ce qu'un arbre est vivant? Oui. Vous avez donné un coup de pied sur l'arbre, est-ce qu'il sent quelque chose?
Non.
Peut-être. Donc un arbre est vivant. Est-ce qu'il peut y avoir vie sans âme? Strictement, en philosophie, la réponse est non. Qui dit vie, dit âme. L'arbre, il a une vie. Il va croître. Il va donner des fleurs. Il va donner des feuilles. Il va donner des fruits. D'accord? Mais il a une vie, une âme purement végétative. Vous donnez un coup de pied au chat, il va réagir. Bon, il va réagir, pourquoi? Parce que lui, non seulement il a une âme végétative, mais il a aussi une âme sensitive. Un dauphin, un chimpanzé ont une âme végétative et une âme sensitive. Mais il y a un troisième degré. Troisième degré, c'est quoi? C'est l'âme raisonnable, l'existence d'une intelligence. Donc, un singe n'a pas d'âme raisonnable. Un dauphin n'a pas d'âme raisonnable. Ils ont un instinct plus ou moins développé, mais ils n'ont pas une âme. Donc, en français, quand on parle du mot âme, en général, on désigne l'âme raisonnable. Quand on dit que l'homme est un composé de corps et d'âme, on parle de l'âme raisonnable. Est-ce qu'il est possible d'avoir une âme raisonnable pour nous, hommes, sans avoir aussi une âme qui soit, qui ait les soubassements, une âme végétative et une âme sensitive? Non. Un homme, quelqu'un qui a une âme végétative, une âme sensitive et une âme raisonnable. C'est la même âme. Il y a 3 degrés différents. Oui. Bon. Au-dessus de tout ça, il y a encore, je dirais, d'une certaine façon, une âme encore supérieure, c'est l'âme des anges. Bien que strictement parlant, l'ange soit un pur esprit. On peut expliquer un ange comme une âme sans corps, une âme qui n'a pas besoin de corps. L'homme a besoin d'un corps pour avoir une nature complète. C'est pour ça qu'après notre mort, il y a séparation entre le corps et l'âme. Mais l'âme va être un jour réunie au corps. C'est pour ça qu'il peut y avoir la résurrection générale à la fin des temps. Parce qu'une âme humaine sans corps, il manque quelque chose. D'accord ? Au contraire, un ange, il n'a pas de corps. Un pur esprit, c'est quoi ? Pour simplifier, on pourrait dire un pur esprit, c'est une âme qui n'a pas besoin de corps pour être complète. D'accord ? Donc, il est de foi, c'est ce que enseigne Saint Pédis ici, donc c'est non seulement de foi, mais c'est le bon sens élémentaire, que on peut prouver l'existence de Dieu sans avoir la foi. Donc le fidéisme est tout à fait condamné par l'Église. On voit très bien, vous voyez, que Saint Pédis prend grand soin à partir d'une base naturelle. Conséquence, si quelqu'un nie l'existence de Dieu, il nie l'existence de l'intelligence en lui. C'est pour ça qu'un athée n'existe pas. Personne ne peut être athée. On peut prétendre être athée. Mais c'est impossible pour quelqu'un d'être athée, vraiment, parce que s'il a une intelligence, il peut prouver l'existence de Dieu. Vous voyez ? On ne peut pas regarder, par exemple, un merveilleux coucher de soleil sans comprendre que cette beauté manifeste la beauté substantielle, dont la beauté du coucher de soleil n'est qu'une faible image. D'accord ? Donc il y a, si vous voulez, un être qui est premier moteur, qui est première cause, qui est première intelligence, bon, et qui est supprimé, c'est ce qu'on appelle la preuve par les degrés d'être aussi d'Aristote, qui a une intelligence supérieure avec une dignité totale, une intelligence totale, une beauté totale, qui va être cause des différents degrés de beauté qui sont dans la ligne inférieure à Dieu. Bon, c'est pour ça qu'il peut y avoir différents degrés de beauté, mais on est bien obligé de remonter à celui qui est le prince de la beauté, à celui qui est le prince de tout ce qui existe dans le monde, à savoir Dieu. Vous voyez, donc Saint Pédis, il a raison. Pour protéger l'âme du modernisme, il part des choses, des réalités des choses. Donc, je reconnais, parce que je ne veux pas être moderniste, que je peux prouver l'existence de Dieu. Dieu peut être connu, démontré par la lumière naturelle de la raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour prouver l'existence de Dieu. Bon. Alors, la conséquence, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de créature sans créateur. Rappelez-vous le principe de causalité. Une créature existe parce qu'il y a un créateur. Hein? Alors, sans l'existence de Dieu, on peut prouver l'existence, sans la foi, on peut prouver l'existence de Dieu, mais il va falloir que quelque chose se rajoute pour monter plus haut. Je vais donner l'exemple de la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption. Bon. Un homme qui a une intelligence peut prouver l'existence de Dieu, mais pour accepter l'incarnation, la rédemption et la Sainte Trinité, il va avoir besoin de quelque chose supplémentaire. La foi. Attention, pas tout mélanger non plus. Est-ce que la foi a quelque chose à voir avec l'état de grâce ? En soi, non. Quelqu'un peut avoir la foi sans avoir l'état de grâce. C'est malheureusement très fréquent. D'accord ? Donc, même sans l'état de grâce, je peux par la foi croire en l'existence de la Sainte Trinité. Vous voyez les différents degrés. Donc la foi est nécessaire pour que sur cette foi vienne se greffer quelque chose de supplémentaire, à savoir la charité. Est-ce qu'on peut avoir la foi sans la charité ?
Oui.
Oui. On peut avoir la foi sans la charité. Quelqu'un qui est en état de péché, un péché mortel, qui est baptisé, il a la foi. Mais il n'y a pas la charité. Est-ce qu'on peut avoir la charité sans la foi ?
Non.
Non. Charité, il faut la foi. Donc en bas, il y a la foi, l'espérance, et la charité se greffe dessus. C'est ça, quand on commet un péché mortel, on perd la charité, mais heureusement, pas la foi, l'espérance. D'accord ? Donc, allez, toutes ces choses sont parfaitement nécessaires. Donc, cette chose qui se rajoute à une nature préexistante, c'est ce qu'on appelle la révélation. Et l'origine du mot en latin, c'est velum. Le velum, c'est le voile. La révélation, c'est ce qui va enlever un voile qui nous empêche de comprendre les choses. Donc on a une intelligence naturelle, parce qu'on a une nature humaine, on a une intelligence, cette intelligence nous permet d'arriver à l'existence de Dieu, je ne peux pas aller plus haut. Pour accepter les grands mystères, il faut la foi qui va venir se greffer sur une intelligence. S'il n'y a pas d'intelligence, la foi ne peut pas fonctionner. Donc, vous avez la nature, la foi, et au-dessus, qu'est-ce qui arrive ?
La grâce.
Alors, il faut encore une fois faire très attention aux termes qu'on utilise. Hein? La grâce va se surajouter la grâce va se surajouter à la foi catholique. D'accord ? On peut avoir la foi sans la grâce. On ne peut pas avoir la grâce sans la foi. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la grâce est quelque chose qui se surajoute à quelque chose de préexistant. Donc la grâce... Tous les hommes ont l'intelligence, d'accord ? Tous les hommes peuvent découvrir l'existence de Dieu. Est-ce que tous les hommes ont la grâce ? Non, la grâce est un don gratuit de Dieu qui va donner quelqu'un qui a la foi. Est-ce qu'on peut recevoir la grâce sans avoir la foi ? C'est impossible. D'accord ? Donc, ça qu'il faut bien comprendre, la grâce est quelque chose qui se surajoute. Donc l'intelligence est naturelle à l'homme, mais pas la grâce. La grâce n'est pas naturelle à l'homme. L'intelligence est naturelle à l'homme, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que mon intelligence est une partie de ma nature humaine. Est-ce que la grâce fait partie de ma nature humaine ? Non, c'est quelque chose qui se surajoute, un don gratuit de Dieu. Et là, on touche la base du modernisme. Le moderniste est quelqu'un qui va prétendre que la grâce est naturelle à l'homme. Ça, c'est Vatican II. La grâce est naturelle à l'homme. Est-ce que vous rencontrez, on peut rencontrer dans la rue... un homme qui se promène sans intelligence. Impossible. Puisqu'un homme a une âme, tout homme a une intelligence, donc tout homme a une âme douée d'une intelligence. Est-ce qu'on peut rencontrer des gens sans la grâce ? Oui, malheureusement. Une personne qui vit dans le péché mortel n'a pas la grâce. Donc quand je dis, comme les modernistes, tout homme a la grâce parce que la grâce est naturelle à l'homme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme ne peut pas perdre la grâce, puisque c'est une partie de sa nature. De même que tous les hommes ont une intelligence, tous les hommes ont la grâce. Or, la grâce est nécessaire au salut. Conséquence, tous les hommes se sauvent. Et ça, c'est le salut universel. C'est l'enseignement, surtout de... C'était l'enseignement de Jean-Paul II, c'était l'enseignement de Benoît XVI, et maintenant l'enseignement de François. La grâce est naturelle à l'homme. Donc, tous les hommes ont la grâce. C'est pour ça que François en est arrivé à dire que tous les hommes sont enfants de Dieu. Pourquoi ? Parce que si tous les hommes ont la grâce, est-ce que quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu peut avoir la grâce ? Bien sûr que non. Donc si tous les hommes ont la grâce, tous les hommes sont enfants de Dieu.
Le péché originel.
Si tous les hommes sont enfants de Dieu, c'est ça à quoi le baptême ? Donc, quand j'étais comme ça, j'ai appris de mes parents que le baptême donnait le caractère d'enfant de Dieu. Donc, un moderniste va être obligé de conclure que tous les hommes sont des enfants de Dieu. Or, c'est faux ! Tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu, tous les hommes sont créatures de Dieu, mais pas enfants de Dieu. Et l'enseignement de François actuellement, c'est ça. Tous les hommes sont enfants de Dieu. Donc la grâce étant partie intégrante de notre nature humaine, tous les hommes sont sauvés. Donc il n'y a plus besoin de baptême. Tous les hommes sont sauvés, c'est ce que dit François, il l'a dit expressément, en parlant des musulmans par exemple, en disant que les musulmans sont les enfants de Dieu. Si les musulmans sont les enfants de Dieu, il n'y a plus besoin de baptême. Donc on élimine le baptême. Et il s'est attaqué, on le voit très bien aujourd'hui, il s'est attaqué à tous les sacrements. Tout va y passer, maintenant il est en train de s'attaquer au sacerdoce, c'est absolument évident. Donc il a attaqué le mariage, il a détruit complètement le mariage en détruisant une condition sine qua non pour qu'un mariage puisse exister véritablement, à savoir l'indissolubilité du mariage naturel, même pas besoin de monter au niveau de la foi. Le lien de mariage est un lien indissoluble. C'est la loi naturelle qui nous l'enseigne. Bon, avec la multiplication des soi-disant annulations de mariage, eh bien on a détruit l'indissolubilité du mariage. Donc le mariage a complètement sauté. Donc François a fait sauter le baptême, a fait sauter le mariage. Maintenant, ils s'attaquent. Ils ont fait sauter depuis longtemps la Sainte Eucharistie en faisant sauter la Sainte Messe. Ça, c'est 1969. Maintenant, ils s'attaquent au sacerdoce. Donc, regardez l'épiscopat allemand, et l'épiscopat le plus moderniste, qui en arrive à dire que il faut supprimer le sacerdoce. Pourquoi ? Parce que tous les hommes sont prêtres. Et oui, si tous les hommes sont prêtres, ça sert à quoi d'ordonner quelqu'un comme prêtre, puisque tous les hommes sont prêtres ? Pourquoi tous les hommes sont prêtres ? Parce que tous les hommes ont la grâce. Tous les hommes ont la grâce. Donc, puisque tous les hommes ont la grâce, c'est-à-dire tous les hommes ont l'habitation en eux de la Sainte Trinité, donc il n'y a plus besoin de prêtre, parce que tous les hommes sont déjà prêtres.
Tous les hommes peuvent se pardonner leur propre péché eux-mêmes.
Vous voyez, on voit très bien ici dans le texte de Saint Louis. Voilà. Mais ça, c'est la base de tout ce qui nous entoure. Vous voyez, donc il faut faire très très attention à s'accrocher à la doctrine traditionnelle de l'Église et ne pas se laisser contaminer par ces idées modernes. Le problème, c'est que ces idées modernes passent partout. Et on a tellement été contaminé, si vous voulez, c'est la formule un peu vulgaire, mais quand on vit dans une poubelle, on finit par sentir mauvais. Et Mgr Lefebvre nous fait remarquer avec raison qu'on ne peut pas ne pas avoir été contaminé. Et il nous fait remarquer, il avait raison, que plus on a fait d'études supérieures, plus on est contaminé. Pourquoi ? Parce que ça détache du réel. Donc un paysan qui est sur son tracteur en train de faire un sillon qui essaie de faire à peu près droit, il n'est pas trop contaminé par les idées modernes. Par contre, quelqu'un qui a Bac plus 7 qui sort de grande école, lui était complètement contaminé par les idées modernes. Donc celui qui a le plus de chances de perdre la foi, c'est le mathématicien ou le gars qui a Bac plus 7 et qui s'est coupé de la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est quoi le réel ?
Le réel.
Le réel, c'est qu'on est créé. C'est le réel. C'est que nous sommes tous des créatures. Et si on est créature, ça veut dire qu'il y a un créateur, pardi. Il ne peut pas y avoir de créature sans créateur. S'il y a un créateur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus qui m'a créé, qui m'a donné tout ce que j'ai. Et donc, cette personne qui m'a créé a le droit de donner un mode d'emploi de tout ce qu'il m'a donné, puisque c'est lui qui m'a créé. Il m'a créé avec une intelligence, une volonté, une racine, un concupiscible. Donc, il a le droit de me dire ce que je dois faire de mon intelligence. Je n'ai pas la liberté de faire ce que je veux de mon intelligence. Je n'ai pas la liberté de faire ce que je veux de mon cœur. J'ai pas le droit d'aimer n'importe qui, n'importe comment, et en n'importe quelle circonstance. Il y a des lois que le bon Dieu nous a données. Et pour être sûr qu'on comprenne bien ces lois de Dieu sont passées dans la nature, ce qu'on appelle la loi naturelle. Est-ce que vous avez besoin d'être catholique pour savoir que vous n'avez pas le droit de tuer le voisin ? Non, c'est la loi naturelle, tu ne tueras pas. Est-ce qu'il y a besoin d'être catholique pour savoir que j'ai le droit de voler le portefeuille du voisin ? Bien sûr que non, parce que le bon sens élémentaire, la loi naturelle me dit « tu ne voleras pas ». Est-ce qu'il y a besoin d'être catholique pour savoir qu'on n'a pas le droit de mentir ? Non, pas besoin d'être catholique, parce que la loi naturelle me dit tu ne mentiras pas. C'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Les 10 commandements sont inscrits dans notre nature, oui.
Est-ce que dans la loi naturelle, justement, les 10 commandements, parce que je me disais qu'ils ne peuvent pas savoir quand même le deuxième et le troisième commandement s'ils ne
le savent pas. Ça, c'est autre chose, c'est-à-dire que la foi va expliciter les choses.
Voilà.
Mais en soi, les vérités, ce qu'on appelle, la loi éternelle qui est inscrite dans la vie de l'homme, ce qu'on appelle la loi naturelle. Donc la loi naturelle est inscrite dans l'homme, c'est pour ça, on reprend ce que vient de dire Saint Thomas, c'est pour ça que l'homme, par les effets, peut remonter aux causes. Je constate des effets, je remonte aux causes, la cause première, c'est Dieu. Donc, il n'y a pas besoin de la foi pour ça. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de la foi. Il n'y a pas besoin de la foi pour croire à l'existence de Dieu. On a besoin de la foi pour recevoir la grâce. Donc la révélation, c'est on enlève le voile pour pouvoir justement monter plus haut. Et c'est ce qu'a fait l'Église pendant 20 siècles. Hein, quand l'Église justement envoie les missionnaires se faire trouver la peau ou dévorer par les moustiques dans tous les contrées du monde, c'est précisément pour amener la foi, pour monter les gens d'un niveau naturel à un niveau surnaturel. Mais vous voyez, il faut faire attention parce que beaucoup de gens sont contaminés par ces idées modernes, entre autres par l'idée qui consiste à dire que la grâce est naturelle à l'homme. Si la grâce est naturelle à l'homme, à ce moment-là, plus besoin de l'Église, plus besoin de sacrement. Et ça, c'est Vatican II. C'est déjà dans Vatican II. Que par son incarnation, Dieu, le Christ, s'est uni à tous les hommes. Par son incarnation. Il y a par son incarnation, Dieu a fait de chaque homme un fils de Dieu. Par son incarnation, Dieu a fait de chaque homme un homme avec la grâce. Donc tout le monde va au ciel. Puisque la grâce est nécessaire pour salut.
C'est si facile.
Ben oui, c'est le modernisme. C'est le modernisme. Le problème, c'est qu'on est tellement contaminé par ces idées-là que maintenant, pour remettre les pendules à l'heure, c'est extrêmement difficile. Et certaines personnes n'y arrivent pas. Certaines personnes n'y arrivent pas. On a parfois des gens qui nous disent, monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, vous nous demandez un tel changement, une telle modification de ma façon de penser que je ne peux pas y arriver. Oui. Alors, je répète cette phrase, ce premier paragraphe du serment antimoderniste. Donc Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu et démontré par la lumière naturelle de la raison. Puisque j'ai une intelligence, je suis capable de prouver l'existence de Dieu par le seul usage de ma raison. Bon. Vous voyez que toutes ces choses sont extrêmement importantes parce que le problème, c'est qu'encore une fois, on a été tellement corrompus par toutes ces fausses idées qu'elles sont là. Maintenant, pour arriver à les arracher, c'est pratiquement impossible. Il reste toujours quelque chose. Donc il faut réapprendre à nos fidèles à penser droit. Et c'est pas facile. Et c'est pour cela que la foi se perd. Parce que la foi ne peut pas survivre sans la base de la raison. Et si vous enlevez la raison, la foi n'a plus rien pour en dire. D'accord ? Bon, on va commencer un petit peu là. Le deuxième point, le deuxième paragraphe. Je reconnais les preuves extérieures de la révélation. C'est-à-dire les faits divins, particulièrement les miracles et les prophéties, comme des signes très certains de l'origine divine de la religion chrétienne. Et je tiens qu'ils sont tout à fait adaptés à l'intelligence de tous les temps et à tous les hommes, même ceux d'aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que cette révélation ? Bon, révélation, je vais vous expliquer, c'est enlever le voile. Mon intelligence est trop faible pour comprendre ces choses-là, donc Dieu enlève un voile sur mon intelligence pour me permettre de comprendre, de monter plus haut. Bon, la révélation, qui dit révélation, dit porte ouverte à la grâce. D'accord ? Donc la révélation nous permet de passer à l'étage supérieur.
C'est pareil pour l'Ancien Testament ?
Les hommes de l'Ancien Testament, ils avaient sauvé leur âme aussi.
Oui.
Est-ce qu'un homme de l'Ancien Testament pouvait sauver son âme sans la grâce ? Ben non. Est-ce que la règle d'être en état de grâce pour être allé au ciel, elle est valable pour tout le monde, y compris pour les gens de l'Ancien Testament. Donc les gens d'Ancien Testament avaient une connaissance imparfaite, c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé, ils avaient une connaissance imparfaite, ils avaient déjà toute une série, ils devaient être sauvés, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, par la foi au Messie qui allait venir un jour. Et toutes les purifications et purifications de l'Ancien Testament étaient équivalente, si vous voulez, non pas d'un sacrement, parce que le sacrement va être institué par notre Seigneur Jésus-Christ, mais de sacramentaux pour préparer les gens. Mais dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, personne ne pouvait être sauvé sans la grâce. Seulement, la grâce pouvait être à ce moment-là donnée aux gens sans les sacrements. Parce que les sacrements n'existaient pas encore. Mais il fallait croire au Christ à venir. Et tous les prophètes étaient là pour annoncer ce Christ qui n'était pas encore arrivé, mais qui allait un jour arriver. Et c'est tout le témoignage de la révolution. Et j'aime faire remarquer aux gens qu'il y a un mot très semblable à révélation, c'est révolution. C'est une lettre. On passe de révélation à révolution. Vous enlevez la révélation, vous tombez dans la révolution. Révélation, c'est Dieu qui se fait homme. Révolution, c'est l'homme qui se divinise. Vous comprenez ? C'est fondamental à comprendre. La révolution amène Dieu qui descend jusqu'à l'homme par le mystère de l'incarnation. La révolution coupe l'homme de Dieu en faisant croire à l'homme qu'il est divinisé par lui-même. L'homme devient Dieu, et donc l'homme devenant Dieu n'a plus besoin de la révélation et donc du mystère de l'incarnation. Et ça, encore une fois, c'est l'enseignement de Vatican II. Parce que finalement, le Vatican II enseigne que par son incarnation, Dieu s'est uni à tous les hommes, et donc tous les hommes sont sauvés. Donc tous les hommes sont sauvés sans même le baptême, donc notre Seigneur Jésus-Christ devient absolument non nécessaire. L'Église catholique devient non nécessaire, les sacrements sont non nécessaires, et tout le monde peut se sauver sans Dieu. Et encore une fois, la difficulté, c'est que toutes ces fausses idées sont tellement rentrées dans les intelligences que maintenant on ne peut pratiquement plus les en faire sortir. Et on a beaucoup, beaucoup de mal. Monseigneur Lefebvre nous disait, c'est un peu vrai, il nous disait, un musulman dans son milieu est inconvertissable. On peut dire qu'un moderniste est inconvertissable tant qu'il reste avec des idées modernistes. C'est ça la difficulté. Et quand on connaît les modernistes, c'est ça. Parce que les mots qu'on utilise n'ont pas le même sens. J'utilisais un mot qui a un sens pour moi, pour le moderniste, c'est un sens complètement différent. La vérité pour un moderniste n'existe pas, mais s'adapte aux situations. Quand vous dites, vous parlez à un moderniste d'un texte infaillible, par exemple, d'un texte infaillible du pape Pie IX au XIXe siècle, qu'est-ce que va vous dire le moderniste ? C'était infaillible au XIXe.
Voilà.
Mais aujourd'hui, en 2022. L'idée qu'un texte infaillible est infaillible pour toujours, par définition même, il ne peut pas comprendre ça. Pour lui, c'est impossible, parce que justement, la vérité n'existe pas, mais il faut adapter tout au temps dans lequel on vit.
L'évolutionnisme,
ça. Hein ?
C'est l'évolutionnisme.
C'est l'évolutionnisme. C'est-à-dire qu'un texte était infaillible sous Pie IX, très bien, c'est vrai, autant que Pie IX c'était infaillible. Mais aujourd'hui, on est en 2022, les choses sont plus infaillibles. Les mêmes choses sont plus infaillibles parce que les choses ont changé. Il y en a un qui l'a dit expressément, c'est Benoît XVI.
Oui, Ratzinger.
Ratzinger l'avait dit expressément, il n'était même pas, il n'était pas encore ce nom de Benoît XVI, il était, à l'époque où il était Ratzinger, préfet de la congrégation de la foi, il l'avait dit expressément. Il avait dit expressément, justement, en expliquant très très bien ces choses-là, que les intelligences, on voit très bien que il disait ça à Monseigneur Lefebvre, il l'a dit à Monseigneur Lefebvre, celui qui nous l'a expliqué, qu'un texte infaillible était infaillible de son temps. Mais aujourd'hui, les textes ont changé. Parce que Monseigneur Lefebvre faisait la remarque, attendez, le pape Pie IX, en 1864, a condamné la liberté de conscience comme étant une liberté de perdition. Vatican II, un siècle plus tard, en 1965, dit le contraire, alors on sait qui ? Et Ratzinger a dit à Monseigneur Lefebvre, la bouche en cœur, mais les deux textes sont vrais. La vérité de 1864 correspondait au XIXe siècle. Aujourd'hui, on est au XXe siècle, au XXIe siècle, les choses ont changé tout simplement, donc il n'y a plus de vérité.
Il faudrait faire une encyclique sur la vérité maintenant.
Ouais, surtout rendront de bons
sens. Quand on ne pas. D'accord.
Donc, je vais rester là. Vous voyez, parce que. Donc, je vous répète ce qu'on a déjà vu. Bon, il faut vraiment y aller par étapes, sinon on ne peut pas comprendre ce texte. Un texte très, très, très philosophique. Quand je prêche les exercices Saint-Ignace, que j'ai des prêtres qui suivent les exercices, ça arrive. À la fin de la retraite, au lieu de faire la profession de foi, pour le prêtre, il fait le serment antimoderniste. Je vais faire le serment antimoderniste. Qui a déjà prêté en tant que prêtre, comme jeune prêtre. Et je fais refaire devant le Saint-Sacrement exposé, commence par les prêtres quand il y en a, ils font le serment antimoderniste, et après, à tous les autres fidèles, je demande la profession de foi qu'on fait à la fin de la retraite, qui est aussi répétée par les prêtres, parce que les prêtres sont aussi tenus à la profession de foi. Mais le serment antimoderniste, je ne le donne pas aux fidèles, parce qu'il est trop compliqué. Plusieurs personnes m'ont dit, monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut le faire nous aussi ? En soi, oui. Parce que le serment antimoderniste, c'est pas simplement quelque chose pour les prêtres, c'est aussi quelque chose pour tous les fidèles. Mais la complexité du texte fait qu'en général, on l'exige de la part des prêtres.
C'est
peut-être après les conférences que vous nous avez données.
Et oui, et ben, c'est pour ça que, je vous l'ai dit, au temps de Saint-Pilis, après Saint-Pilis, les professeurs d'université, qui n'étaient pas prêtres, l'université catholique, étaient tenus par le serment antimodernisme.
C'était la bonne époque.
Voilà. Voilà, bon, on va arrêter là, parce que je ne veux pas... C'est, si vous voulez, des conférences un peu lourdes, si vous voulez, sur le plan philosophique, mais... Il faut comprendre qu'on a en face de nous des intelligences qui sont dévoyées. Et donc, il faut reprendre... Monseigneur Lefebvre me disait littéralement, il faut, c'est ça qui est très, tellement, tellement compliqué, il faut littéralement reprendre, ouvrir la calotte crânienne, prendre le cerveau et le remettre dans le bon sens. Et c'est pas évident. Bon, on va terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Saint Ange gardien,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.